Bonjour à tous et bienvenue. Nous voici de nouveau pour l'heure du carillon, cette émission mensuelle présentée par des chrétiens du Villefranchois. Alors, cet après-midi, autour de la table...
Bonsoir. Bernard Lauriac.
Bonjour, Émilie, Martin.
Et moi, l'oncle Didier Grandjou, prêtre à Villeneuve. Aujourd'hui, nous voudrions essayer d'aborder le thème de l'espérance. L'espérance, et puis c'est vrai que nous allons arriver dans cette période chrétienne du carême. Alors, est-ce que le carême est une période de sombre ou est-ce que c'est une période qui nous prépare à la lumière? L'espérance dans un monde qui, trop souvent, désespère.
Désespère, je trouve que tu vas un peu fort, Didier. Je dirais, moi, plutôt qu'il est inquiet. Il y a une accélération de l'histoire qui fait que les gens se disent, mais où on va? Tout est changé, mais à une telle vitesse qu'on a besoin d'un regard nouveau, à la fois sur nous-mêmes, sur les êtres, sur l'avenir. Il me semble qu'on ne voit pas le cap. Et les hommes politiques nous aident pas souvent à voir le cap. Tout ça est inquiétant. Moi, je le ressens particulièrement à l'Université des Savoirs Partagés. Je me fais un peu de pub là-dessus. Mais à l'Université des Savoirs Partagés, les gens viennent parce que ils veulent comprendre ce qui se passe dans notre monde. Désespérance, inquiétude, désir de comprendre où on va.
On est peut-être un peu déboussolé par manque de repères et puis par une perte de confiance, non?
Puis on est dans un monde qui bouge quand même, parce que c'est un monde qui fait place, qui prend la place d'un autre qui était, lui, statique. Je dis pas qu'il ne s'est rien passé précédemment, loin s'en faut. Mais enfin, maintenant, il y a un mélange des races qui se fait. Ça ne peut pas se passer, ça le tumulte. Mais c'est quand même avec une appréhension, certes, mais avec beaucoup d'espoir que ça se passe. Et oui.
Donc j'accueille volontiers cette remarque, le monde qui est plutôt désappointé que dans la désespérance, voilà, si on devait dire les choses. Et c'est vrai que, donc nous on va aborder cette question ce matin, parce que il y a un appel à changer de regard, comme tu le disais, à changer de regard sur soi-même, à changer de regard sur les autres, à changer de regard sur le monde, et à poser un regard bienveillant, un regard émerveillé, donc parce qu'il y a partout, même au pire des zones d'ombre, il y a de la lumière. L'espérance, ça serait peut-être de faire jaillir cette lumière au cœur même de nos zones d'ombre et de nos ténèbres. Alors, pour commencer cette émission, nous allons, une émission, vous savez, qui est sur CFM 90.2 et qui est retransmise par Radio Présence. Donc, pour commencer, nous allons écouter un chant ancien déjà, mais que vous connaissez bien et qui va nous mettre dans l'ambiance de ce que nous voulons essayer de partager avec vous.
C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid. Et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit. Et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui. C'est l'espérance folle qui carambole les tombes du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort, c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. Viens, c'est la fête. Semaine vient, je que rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien. Avec les beaux jours qui viennent, reviennent, c'est l'espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits, des maisons et des places. La terre est basse, je vole avec toi. Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus au sommet des montagnes, mât de cocagne des cieux inconnus.
La mort, c'est une blague. Alors, pendant que passait la chanson, et on a eu quelques réactions autour de cette table à propos de cette phrase. C'est un passage, c'est sûr. Une blague n'empêche qu'elle est présente dans toutes nos vies et qu'il faut essayer de vivre le moins mal possible cette mort. Alors, je vous disais en commençant, nous sommes, et vous le savez, puisque si vous écoutez cette émission régulièrement, nous sommes des chrétiens autour de cette table. Et je vais commencer par parler de l'espérance chrétienne. À partir d'un petit bouquin qui vient de sortir, juste là, il y a un mois, qui s'appelle « Veilleur, où en est la nuit ?» un petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains. C'est sorti au CERF, et c'est un dominicain qui est prêtre donc au Caire qui a écrit ce petit traité, Adrien Candiar. Je vous lis la quatrième de couverture. « Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d'un monde qui a perdu toute espérance ?» Oui. Espérer est leur profession de foi depuis 2000 ans. Non, eux-mêmes sont désespérés en ce début de troisième millénaire. Et si espérer, c'était d'abord renoncer à tous les faux espoirs. Refuser d'idéaliser le passé, refuser de sublimer l'avenir. Dire non au fantasme de la restauration glorieuse, et non à l'illusion de l'exaltation apocalyptique. L'espérance des chrétiens n'a qu'une chose à offrir, la vie éternelle. Une vie qui ne commence pas après la mort, une vie qui débute maintenant. Une autre manière de vivre sa mort, de mourir sa vie. Voyez que c'est tout un programme. Et ce livre, mais qui est un petit opuscule plutôt qu'un gros livre, ce livre est divisé en deux parties. D'abord, tout ce que les gens disent de leur vie d'aujourd'hui, avec cette angoisse, ces inquiétudes, le fait qu'ils soient désappointés, ce que rappelait Bernard tout à l'heure. Et la deuxième partie, eh bien justement, ce qui, nous, les chrétiens, nous donne de vivre et de construire cette espérance. La liturgie de Pâques, que nous célébrerons au mois d'avril, est toujours accompagnée de l'espérance et de l'invocation en faveur de sa réalisation définitive, et pour tous, dans le royaume du Père. C'est alors que s'accomplira l'étreinte du Père envers ses enfants, les hommes, annoncé par les bras ouverts du crucifié sur le bois de la croix. La Pâque pousse donc le chrétien à s'engager dans l'espérance du salut universel. Dans la prière pour le royaume, pour que le royaume vienne, pour que les larmes de tous les hommes soient enfin essuyées, nous, les chrétiens, nous ne devrions pas oublier que la Pâque a pour destinataire l'humanité entière et pas seulement l'Église. L'espérance dont vivent les chrétiens, c'est une espérance pour ce monde et toutes les créatures vivant dans ce monde. Et c'est pourquoi l'espérance à construire prend des formes concrètes, des formes qui nous obligent déjà à poser les pierres de ce royaume nouveau. Et nous voulons discuter de de tout cela autour de cette table maintenant, en partant peut-être de quelques considérations que Bernard nous a proposées dans des écrits de Peggy.
Oui, j'ai une grande admiration pour Peggy, aussi bien pour son œuvre en prose que son œuvre poétique. Là, c'est un texte qui date de 1908, toujours de la grippe. Alors, je vous le lis. C'est le Peggy, jeune socialiste, un peu fou à l'époque. Il dit « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient traités inhumainement. Nous n'admettons pas qu'il y ait des citoyens qui soient traités inciviquement. Nous n'admettons pas qu'il y ait des hommes qui soient repoussés du seuil d'aucune cité. » Là est le profond mouvement dont nous sommes animés. Nous n'admettons pas qu'il y ait une seule exception, que l'on ferme la porte au nez à personne. Ciel et ou terre, nous n'admettons pas qu'il y ait des morceaux de la cité qui ne résident pas au-dedans de la cité. Jamais nous ne consentirons à un exil prolongé de quelques misérables. À plus forte raison, ne consentirons-nous pas à un exil éternel en bloc. Donc, Peggy, dans cet axe de détresse, au moment où les guerres balkaniques se développent, Peggy, au moment aussi où il y a un certain antisémitisme à l'époque de Dreyfus. L'affaire Dreyfus, donc c'est quelqu'un dans ses cahiers qui montre toute sa volonté d'aller à l'encontre de toute injustice. Et tu parlais d'espérance, il a écrit aussi dans le porche de
des vertus
de l'ancienne vertu, il a écrit sur la petite fille Espérance des passages tout à fait remarquables. Pour lui, plus que la foi et la charité, l'espérance c'est quelque chose de décisif pour les chrétiens et pour les hommes. Il y a toujours dans l'histoire des périodes tragiques. Et son texte convient tout à fait à la période où on voit des gens qui meurent en Méditerranée, où on voit à Alep des bombardements atroces. Donc cette volonté d'intégrer tous ceux qui sont victimes d'injustice, ça me touche particulièrement.
Non. Ce que tu dis de Peggy, en 1911, là, 1910, ce que tu dis de lui, il faut dire que les courants religieux l'ont toujours porté. Et hier, mais cette émission passera plus tard, mais à la messe donc du cinquième dimanche, nous avons entendu un texte d'Isaïe, et déjà c'était la préoccupation de ce prophète 6 siècles avant Jésus que de dire des choses comme ça. Autrement dit, nous n'avons pas une foi éthérée, une foi pleine de bons sentiments, voilà, mais une foi qui doit passer dans des actions concrètes pour libérer l'homme. Et peut-être, Michel, tu pourrais nous lire ce texte. Vous allez en comprendre, et on pourrait facilement en faire la lecture à côté du texte de Peggy, en d'autres termes, mais on reprend un peu ce combat pour l'homme.
Alors, il est titré « Ta lumière jaillira comme l'aurore ». C'est une lecture du livre du prophète Isaïe. « Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. » Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. »
Voilà, le cœur de l'espérance, c'est mener ce combat pour l'homme et permettre à chacun de pouvoir avancer avec un brin de lumière. Vous savez, Soljenitsyn, dans l'enfer du goulag, il a écrit ce merveilleux texte qui s'appelle « La petite flamme dans la tourmente ». C'est-à-dire que même au cœur des épreuves les plus difficiles, il y a cette petite flamme, qu'elle soit vacillante, qu'elle ait du mal, mais qui brûle et qui nous permet de continuer d'avancer. Eh bien, je crois que le chemin d'espérance, c'est celui-là. Alors, si vous voulez, on va écouter maintenant une hymne religieuse de Tamier qui nous dit que, voilà, eh bien, on est en chemin vers cet amour qui nous attend, cet amour que l'on annonce, cette vie totale dans l'amour qu'on appelle le salut. Quand verrons-nous ta gloire transformer l'univers ? Alors bien sûr que c'est avec l'Esprit de Dieu que l'univers est transformé, mais Dieu veut avoir besoin de nous et nous devons être créateurs avec lui et donc les agents de cette transformation de l'univers pour que tous les hommes vivent un peu mieux dans notre monde. Alors on va continuer sur ce thème de l'espérance en parlant. Si on devait donner des synonymes au mot espérance.
Alors moi je me pose justement la question. Donc l'espérance c'est une vertu théologale, hein, une des plus importantes avec la charité et la foi. Mais quelle est la différence entre l'espérance et l'optimisme ?
Alors vous avez des idées ? Ou d'autres synonymes encore, ou ce qu'on pourrait croire être des synonymes, oui.
Nous sommes dans le retour du tragique. Il suffit de regarder la télé, de voir les bombardements d'Alep, de voir ce qui se passe en Méditerranée avec des bateaux pleins. Prêt à couler, il y a des noyés, la Méditerranée est devenue. Alors pour autant, est-ce qu'on doit désespérer ? Moi je crois qu'on vit une période extrêmement difficile aujourd'hui, mais ça nous empêche pas de croire que on peut lutter pour améliorer, pour changer, alors que on est de temps en temps marqué par la soif de repos, par la lassitude, même parfois par le désespoir. Ça nous empêche pas de traverser ces périodes difficiles où on est pessimiste pour espérer dans un mieux demain si toutes les bonnes volontés se coalisent pour agir, pour oser.
Voilà, justement. Moi, je pense que l'espérance n'est pas l'apanage des seuls chrétiens. Elle appartient à toute personne de bonne volonté. On la retrouve chez les musulmans, on la retrouve chez les bouddhistes, on la retrouve chez les hindouistes, dans toute philosophie ou autre religion. Là, il faut s'entendre par rapport à ce que l'on a jugé au travers de tous ces événements que tu viens d'évoquer. On peut les voir à la fois sur leur côté tragique et au-delà de ça, par rapport à tout ce que les secousses de notre société nous amènent à réfléchir pour devenir autre, pour devenir meilleur, pour devenir en bonne entente avec le relationnel qui est devenu celui qui est actuellement, c'est-à-dire un relationnel de mélange, alors qu'avant, on était dans un relationnel compact, avec des gens où frisait la consanguinité, avec des peuples qui ne se fréquentaient pas.
Oui, il y avait un consensus local, quoi, un peu.
Voilà.
Oui.
Alors que maintenant, on s'est mondialisé, la terre est devenue un village, et on a à partager ce que chacun a construit dans son pays, et de tout ça devrait naître un bonheur. Un plus des découvertes, et c'est vrai qu'il y a de mauvaises choses qui se passent, mais il y a aussi de très belles choses qui arrivent, qui vont venir.
Ce que vous dites tous les deux, mais moi j'ai pas la réponse à ma question.
Alors voilà, je pensais ça. Moi je me disais, en t'écoutant, j'ai pas réfléchi plus que ça, parce que pour le coup, même si on prépare cette émission, ta question était spontanée, et donc pour le coup, je me dis, l'optimisme, c'est sans doute un trait de caractère. C'est une nature. Alors, bien sûr, on peut changer sa nature, mais il y a des gens de naturel plutôt optimiste et des gens de naturel plutôt pessimiste. L'espérance, c'est différent. C'est pas un trait de caractère. C'est un désir d'agir. C'est une mise en route. Et alors, pour parler de synonymes, peut-être que l'espérance, c'est un désir de se mettre en route, d'être pèlerin, vers un nouveau pays, ou d'être explorateur, aventurier, vers un nouveau pays qu'on appelle l'utopie. Parce que vous savez que l'utopie, au départ, c'était un pays, une terre à construire. Eh bien, l'espérance, c'est se mettre en route vers cette terre à construire. Alors, ça peut paraître utopique, mais utopique ne veut pas dire illusoire. Ça veut dire vraiment quelque chose à construire. Et l'optimiste, alors, moi, je pense que même des pessimistes peuvent se mettre en route pour construire un monde meilleur. Je pense que l'optimisme, c'est un trait de caractère, je répète, et que l'espérance, c'est un désir d'avancer et une attitude de toute une vie.
C'est bien, ah, des Grandjoux, tu as l'habitude de lever le débat. On est en plein dedans, c'est parfait.
Donc, c'est l'espérance qui met en mouvement.
Oui. Je crois, enfin, me semble-t-il, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'espérance, c'est cette mise en route, c'est aller de l'avant, c'est... Vous savez,
l'espérance, c'est agir, alors.
Oui, l'espérance, c'est agir. Hein, tu vois, oui. Et puis alors, si vous voulez, on en revient au texte qu'on a lu il n'y a pas longtemps, et qui est le cœur de l'Évangile, c'est les béatitudes, ce sont les béatitudes, pardon. Alors on dit heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les... voilà. En réalité, si on prend le mot grec ou hébreu, ce que l'on traduit rapidement par heureux, ça veut dire être debout et en marche. Debout et en marche. Et ça, c'est intéressant. Mais je crois que l'espérance, c'est cette capacité, et donc que l'on peut prendre pour soi, cette capacité de se lever et d'être en marche vers un plus, vers un mieux, mieux aimé, plus aimé, regarder les choses autrement.
Oui, intéressant.
Moi, je voudrais ajouter, ça m'a frappé, une petite brochure du CCFD qui est intitulée « Transformer la clameur du monde, les cris du monde en espérance ». C'est un petit peu la solidarité internationale que prend le CCFD, c'est ça. Hein, c'est, on écoute On essaie de comprendre, mais après, il faut mettre la main à la pâte, il faut oser, il faut agir, et on peut quelque chose. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que les gens se disent, mais on est impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si, moi je suis persuadé qu'on peut aider, on peut bouger, on peut amener notre pierre, et si tout le monde se coalise, on peut transformer le monde auprès de nos politiques, puisque maintenant c'est l'heure des présidentielles, il faut leur dire, mais on n'accepte pas ce qui se passe là. Nous on veut changer profondément les choses.
Non, mais c'est intéressant de dire ça, parce que c'est positif. Parce que si on se borne, comme on l'entend beaucoup, à dire on est impuissant, tout va mal, c'est détestable de dire ça. Il faut se rapporter à comment on vivait auparavant. Auparavant, j'y reviens, mais on vivait en autarcie. Mon grand-parent, il n'avait rien. Les pauvres, ils n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient froid dans leur maison, et ils étaient dominés pas parce que les seules choses qu'on leur donnait à entendre ou à savoir, c'est-à-dire peu de choses, on a quand même considérablement évolué, et ne serait-ce que le débat, enfin c'est pas un débat, mais les discussions que nous avons aujourd'hui, c'est un mieux. Alors il faut quand même le voir, sinon c'est la désespérance totale. Mais il y a des jeunes qui sont extraordinaires, il y en a d'autres qui sont en déroute, mais c'est à nous de faire, de voir comment on peut s'accompagner les uns les autres, puisqu'à tout moment dans la vie, chacun a besoin d'être accompagné.
Alors là, il y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit tout d'un coup. Alors, bien sûr, peut-être certains vont être surpris par mon propos, mais écoutez-le jusqu'au bout. C'est un peu parfois l'ambiguïté de la prière ou de l'attitude de prière. Quand je dis ça, je dis pas qu'il ne faut pas prier. Au contraire, elle est au cœur, elle est au départ. Mais la prière, c'est pas dire à Dieu, débrouille-toi. Oui. C'est la prière, c'est pas changer les autres, c'est pas changer les autres, c'est se changer à soi. C'est avoir la force de se changer à soi. Et souvent, je me dis, moi, nous les chrétiens, on ne tient peut-être pas à ce que nos prières soient exaucées. Alors quand je vous dis ça, je vous fais rire. Alors voilà, évidemment. Mais je m'explique. Si vous dites à Dieu dans votre prière, Seigneur, rends-moi plus généreux. Vous vous rendez compte, s'il vous exauce, les ennemis que vous allez avoir.
Oui.
Si vous n'êtes pas exaucé, vous êtes tranquille. Tu vois, vous lui avez demandé, mais vous êtes dédouané. Alors que la prière doit nous changer et nous envoyer justement vers une marche, vers un debout, vers debout et en marche, comme je le disais tout à l'heure, pour construire quelque chose, transformer. Tu vois, c'est ce que dit la brochure du CCFD, oui. Transformer.
Les crises en espérance.
Transformer, voilà, transformer les crises en espérance. Mais ça demande une action concrète de tous les jours. Mais il suffit pas d'une grande action. Une petite action. Vous savez, souvent les chrétiens disent, il faudrait qu'il y ait la paix dans le monde. Moi, j'ai pris cet exemple aussi. La paix, c'est important. Tout le monde le dit. Alors, la paix à Alep, malheureusement, c'est pas moi qui irai la mettre. Je peux pas. Par contre, la paix dans ma famille, ou autour de moi, dans mon entourage, je peux essayer de la construire. Bien que ce soit aussi un sacré combat à réussir dans la paix. Moi, je me dis, les chrétiens, on regarde la télé, on dit, oh, c'est triste, tu vois, ces gosses qui meurent, il y a la guerre et tout. Puis on arrête la télé et on s'engueule parce que la soupe n'est pas assez salée. On n'a rien compris à la paix. On n'a rien compris à la paix, voilà. Mais c'est un peu ça, un peu notre vie. Eh bien, il faut changer ce regard, changer cette manière d'être, changer notre façon de vivre. Et c'est sans doute... Et là, on va arriver à l'autre thème, c'est sans doute cela, le carême. Le carême, c'est un temps de conversion. Et conversion, ça veut dire retournement, changement. Je me retourne vers l'autre, je me retourne vers Dieu. J'essaie de changer mon quotidien habituel en autre chose qui aille vers l'autre.
Alors, que faut-il faire pendant le carême, justement ?
Jean-Michel, toi qui dis que tu prends.
Oui, mais alors tu vois, jeûner de quoi?
Oui.
Aujourd'hui, c'est pas la peine de se poser la question si je dois mettre au menu du saucisson ou du saumon. C'est ridicule. Mais jeûner peut-être de télévision. Tiens, faire jeûne de télévision pour être davantage à l'écoute de l'autre ou de mes enfants. Ou être disponible à la prière, à la parole de Dieu. Tiens, si je faisais un peu jeûne de télévision. Si je faisais jeûne de mauvaise langue.
Oui, ça c'est pas mal, tiens.
Hein, voilà, tu vois, et de critiques ou de choses comme ça. Il y a plein de façons de jeûner.
De colère.
Alors voilà, il y a plein de façons de jeûner. Mais donc si tu veux, le carême c'est creuser en soi un désir. un désir. Et quand on lit les premiers textes du carême, il y a trois attitudes. Il y a prière, aumône, jeûne, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je prie pour avoir la force de creuser en moi une faim qui m'ouvre à l'autre. Prière, jeûne, je creuse en moi cette faim, et aumône, je vais vers l'autre. Mais enfin, on pourrait en reparler bien longtemps.
Oui, donc, face de carême...
C'est pas très approprié, quand même, face de carême.
On pense à la pénitence, alors que le carême, ça doit être un temps de joie,
oui.
Il me semble. Alors, ça dure 40 jours. Il faut peut-être expliquer pourquoi les 40 jours. Je pense que c'est à la fois les 40 jours que passe Jésus dans le désert.
Quelle est cette signification, excuse-moi de t'interrompre, quelle est cette signification des 40 jours?
Ouais, mais tous les chiffres bibliques sont connotés d'un symbole comme ça qui, et on dit 40, c'est le temps d'une génération. Alors, si tu parles d'une génération, quand on parle des 40 ans, que ce soit des jours, des
ans peu, de l'Exode.
De l'Exode, peu importe. Mais c'est une génération qui est passée, si tu veux, de l'esclavage à la liberté. Il faut bien une génération pour ça. Jésus, son épreuve de 40 jours au désert, c'était de passer à son attitude de fils d'homme à fils de Dieu, tu vois, par exemple. Voilà, ce passage nécessaire, une génération, quelque chose qui nous oblige à passer et à avancer.
Donc il faut passer par une sorte de désert. On n'a pas besoin d'aller au Sahara pour ça. Ça a une signification, le désert, dans la Bible. C'est la terre de la soif, la terre du silence et la terre de la solitude. Alors, la terre de la soif, mais cependant, Moïse, en frappant le rocher, il savait trouver la source. La terre de silence, mais c'était aussi la terre de la parole. Au Sinaï, il a entendu la voix de Dieu. La terre de la solitude, c'est ce qui a permis à un peuple esclave à devenir un peuple libre, un peuple libéré, en marche vers la terre promise, donc vers autre chose que l'esclavage en Égypte. Donc, cette recherche sur soi-même que doit être le carême, c'est ça qui est important, me semble-t-il, plutôt que de transformer la bouffe de viande en poisson. Hein, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, j'imagine.
Ouais. Parce qu'on est empêtré par des rites religieux, oui.
Mais c'est-à-dire que les rites ont de l'importance, parce qu'ils repèrent notre vie, ils balisent notre vie. Mais il faut leur donner un sens, et pas uniquement l'histoire d'être en deal avec Dieu, puis être en règle avec lui, ça veut rien dire. Mais ce que tu dis, tu vois, c'est que ces 40 jours de désert, ces 40 jours de marche aussi, de marche, d'aventure vers un ailleurs. C'est toujours ça, c'est un pèlerinage, c'est aller vers un ailleurs pour aller vers un mieux. C'est toujours ça. Et donc, cette aventure, aujourd'hui, elle continue. Alors, on va écouter un petit peu de musique, l'histoire de se refaire un peu la voix. Voilà, donc, on parlait du désert. Je ne sais pas si vous avez eu la chance dans votre vie d'être un peu allé au désert plusieurs fois. Et moi, j'ai eu cette chance-là. C'est vrai que quand tu es dans le désert, même avec un petit groupe de personnes comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu t'arrêtes, hein, tu t'arrêtes, et voilà que tout un tas de gens viennent autour de toi. Le désert est habité. Et alors ça, c'est étonnant. Donc le désert, et dans la Bible c'est très important, c'est un lieu privilégié de la rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quête d'essentiel. C'est vrai que avoir soif, tu vois, être dans le silence, toutes ces attitudes dont Bernard a parlé, c'est une quête de l'essentiel. Et c'est pourquoi, dans toutes les spiritualités, mais particulièrement dans la Bible, le désert est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Parce que tu n'es pas pollué par le reste autour de toi. Et puis, que c'est cette terre de rencontre, cette terre de quête, cette terre, d'épanouissement total de ta personne. Donc, moi, je crois que ces 40 ans au désert signifient tout cela. Vers quoi je veux me mettre en route, tu vois? Et avec qui? Et pourquoi recevoir? Pourquoi dans ma vie je vais essayer de prendre des attitudes qui vont un peu changer ma manière de vivre pour être davantage ouvert à Dieu et ouvert à l'autre? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je vais pas m'ouvrir simplement à Dieu pour mon petit confort personnel, ma petite quête spirituelle. Non, non. Je m'ouvre profondément à Dieu pour davantage m'ouvrir à l'autre. Autrement dit, le chrétien, s'il est un homme ou une femme de Dieu, il est homme ou femme de Dieu pour être homme et femme des autres. Voilà, ça me paraît essentiel.
Mais n'y a-t-il pas besoin aussi de déconnecter quelque part lorsqu'on s'arrête 3 jours, une semaine?
Ah, mais oui, mais c'est ça.
Ça permet le silence désertique, ça permet de de nettoyer.
Oui, c'est pour ça que je te dis la quête d'essentiel, pas encombrée par tout le reste que l'on a souvent autour. Voilà, donc ça c'était un peu pour le désert. Et puis, il y a ce changement de regard. Alors, quand on a préparé tout à l'heure, Bernard nous disait, pour parler de ce changement de regard, d'attitude et tout, je voudrais bien évoquer, parce que c'est vrai que la marche liturgique du carême est bien balisée. Et bien balisée, il y a le désert, mais il y a aussi la transfiguration. Et Bernard voulait parler de cette transfiguration, voilà.
Oui, absolument, parce que Jésus amène Pierre... Jacques et Jean, je crois, hein, c'était les piliers de l'Église de l'époque.
Oui, les témoins privilégiés, oui.
Il les amène au mont Tabor, et là, il y a ce qu'on appelle la transfiguration, c'est-à-dire que il voit Élie, Moïse, et puis il y a la voix de Dieu qui transforme complètement les gens. Alors, ils deviennent tout blancs. Alors j'imagine que c'est la préfiguration de la gloire de l'éternité. Mais tout simplement, j'imagine que quand on est amoureux, on est aussi transfiguré, non ?
Voilà, oui, c'est ça.
Il me semble donc c'est du concret, ça. C'est notre vie quotidienne. Et alors moi, ce qui m'avait frappé dans la transfiguration, c'est que le cher Pierre, il imagine de planter une tente pour Élie qui doit préfigurer le retour du Messie, Moïse qui, parce que il y a peut-être entre le Tabor et le Sinaï, il y a peut-être là aussi, hein, c'est comme les 40 jours du désert.
Moïse, c'est la loi. Voilà. Alors la loi nouvelle, et puis Élie, c'est les prophètes, tu vois, donc le retour du Christ, tout ça. Oui.
Voilà. Et alors donc Pierre lui imaginait une tente, et puis Jésus lui dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir vers Jérusalem, annoncer ce que vous avez vu aux autres, c'est-à-dire tracer un chemin du salut. C'est ça qui est important. Moi, laïque engagé, je trouve que ce qu'on nous demande, si on veut vraiment être chrétien, c'est d'essayer de changer tout ce qui va pas autour de nous. Alors, dans notre famille, et c'est pas tous les jours marrant, la famille. Non, on a nos colères, il y a des choses qui vont pas, on s'engueule de temps en temps, on s'aime bien.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure et que vous avez acquiescé, à savoir, le premier chemin, c'est se changer soi. Voilà, c'est se changer soi d'abord. Parce que c'est trop facile de dire que les autres changent. Non, non. Moi, je dois changer mon regard sur les autres. Et la transfiguration, c'est ce changement de regard. Je suis illuminé par la clarté de l'autre. Voilà, illuminé par la clarté de l'autre, et ça va changer ma vie.
Oui, mais il faut faire attention de ne pas se démolir non plus.
Ah mais non.
Il ne faut pas. Non, mais il y a des gens qui se changent tellement. Ça existe aussi qu'ils se perdent. Donc il faut quand même garder une structure. Il faut rester ce que l'on est en l'améliorant. C'est pas le détruisant.
Ah mais non.
Que vous comprenez bien.
Oui. On fait pas un travail de psychanalyste. On ne déconstruit pas pour reconstruire. Enfin, moi je sais pas.
Donc, puisqu'on est toujours dans le carême, le troisième dimanche de carême, c'est le quiproquo sur le temple. Les gens, quand Jésus a dit ce temple, je vais...
Détruisez-le en 3 jours, je le rebâtirai.
Je le reconstruirai en 3 jours, tout le monde éclate de rire parce que... Le temple de Jérusalem, c'était quelque chose de colossal. Et donc, il dit, mais ce pauvre Jésus, il délire complètement. Comment il peut reconstruire un temple en 3 jours ?
Mais le symbole était beaucoup utilisé à cette époque-là.
Et oui, seulement le véritable temple, c'est le cœur de l'homme. Oui. C'est ce qu'il y a en nous. Est-ce que ce cœur de l'homme est perméable à la grâce ou est perméable à tout ce qui traverse notre monde ? Moi, je suis effrayé par cette rapacité des hommes, ce besoin d'argent qu'on voit un peu partout, alors que on pourrait être heureux ensemble.
Justement, la grâce, c'est quoi ?
Ah,
mais non, parce que c'est bien beau d'employer des jolis mots comme ça. La grâce, c'est quoi la grâce ?
Dis-nous-le.
Ah non,
l'angocha.
C'est trop facile ça. Non, c'est quoi ? Eh bien, vous savez, il y a un côté de grâce, donc qui est étymologique. Grâce, c'est ce qui est gracieux, c'est-à-dire ce qui est beau. Ce qui est joli. Ça, c'est l'étymologie. Et puis, il y a une autre manière de dire la grâce, parce que les deux vont ensemble. C'est pas l'étymologie, mais ça va bien en français, du moins. La grâce, c'est ce qui est gratuit. Donc, la grâce, c'est ce qui est donné gratuitement et qui est beau. Et ça, cette grâce, nous la recevons de Dieu. Ce désir de meilleur que nous avons en nous. Ce désir de solidarité, de justice, d'amour, de paix, tout ça, c'est des synonymes qui se déclinent sous d'autres formes, mais c'est la même chose. Eh bien, ça, c'est la grâce que nous fait Dieu de mettre ça dans notre cœur, de nous mettre ce désir. Voilà.
C'est ce que reçoit l'enfant de sa maman.
C'est ce que reçoit l'enfant de sa maman, c'est ce que nous recevons les uns des autres en étant ensemble et en essayant de vivre ce monde plus fraternel, malgré nos différences, malgré nos conflits. Parce que les gens s'imaginent que la paix, c'est l'absence de conflit. C'est ridicule de penser ça.
C'est pas possible.
La paix, c'est le conflit assumé. J'accepte que tu sois différent, que tu penses différemment de moi, mais c'est pas pour ça que je vais te taper dessus.
C'est le conflit assumé.
Voilà, la paix, c'est le conflit assumé. Mais c'est pas l'absence de conflit, ça n'existe pas, c'est pas possible.
Certains auditeurs me demandent, j'y pense maintenant, vous parlez mais vous ne vous situez jamais. Alors nous sommes sur CFM Radio, et sur Radio Présence, et autour de la table, dans le studio, il y a Émilie Martin, le père Didier Grandjoux, il y a Bernard Lauriac et Michel Montbressous.
Et c'est l'heure du carillon.
Voilà, tout est dit.
Oui, moi j'avoue. Continue
quand même.
Alors continue, Bernard. Excuse-moi.
Oui, moi, ce qui me paraît pour dépasser les blocages, il y a une expression qui m'a toujours frappé, c'est faire la vérité, la faire. Et alors pour faire la vérité, il faut sortir de nos étroitesses. Je parlais de la famille, mais nous allons vers les présidentielles, c'est-à-dire qu'il faut être aussi des citoyens responsables et sortir du cercle familial où beaucoup de chrétiens restent, parce que moi je les vois pas beaucoup ou assez dans les associations, dans les structures qui cherchent à transformer le monde. Et on a besoin de cette transformation du monde, sinon on va, je sais pas où on va, hein, parce que il y a quand même des menaces. Il y a le changement climatique, ça veut dire que tout le monde cherche doit essayer de changer sa façon de vivre, me semble-t-il. Ces migrants qui nous arrivent, est-ce que on les rejette ou est-ce qu'on les non seulement on les accueille, mais on est là pour les aider à parler français, à trouver un logement, un métier, etc. C'est de l'ordre de l'action, de la responsabilité citoyenne dans la cité. Donc ça c'est fondamental.
Mais à cette période-là, moi je l'ai lu comme vous sans doute, il y a pas mal d'associations, confessionnelles ou pas, qui veulent proposer aux candidats une feuille de route en quelque sorte. Et bon, et j'entendais l'autre jour par exemple, à chaque fois plusieurs associations, je ne me souviens plus lesquelles exactement, alors il y a des cathos là-dedans, des non-cathos, il y a de tout, plusieurs associations disaient, à chaque fois que des choses seront dites, des choses fausses seront dites sur la pauvreté, nous interviendrons. Parce que on parle de la pauvreté, de ce que ça coûte, de ce que... Voilà. Et ils disent, nous interviendrons. Et je sais qu'il y a d'autres... Il y a d'autres sujets, il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres associations qui œuvrent dans ce sens aussi, voulant proposer une feuille de route.
Oui, alors moi, je vois trois axes, mais je ne sais pas si on écoute de la musique avant.
Non, on finira avec la musique. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc les trois axes, c'est d'abord le partage des richesses. Ça me paraît fondamental. Ensuite, il y a la justice climatique. Ça, c'est fondamental. Et enfin, faire respecter les droits de l'homme. Et quand je dis de l'homme, c'est aussi de la femme et de l'enfant.
Alors, c'est vrai que les partages de la richesse, ce n'est pas uniquement les partages de ce que tu as sur ton compte en banque. C'est une richesse de tout ce qui nous rend riches, c'est-à-dire nos relations, notre culture, tout ce qui nous enrichit et qui nous permet d'accueillir la richesse de l'autre. Voilà, partage. Ensuite, évidemment, une justice environnementale. Enfin, il y a des choses que l'on ne peut pas tolérer. Alors, moi, je suis quand même frappé, étonné. Ça me fait à chaque fois bondir, mais j'ai peut-être tort. Hein. On te dit, arrêtez chez vous les veilleuses du téléviseur et tout, parce que l'économie d'énergie, attention à la planète et tout. Jamais personne ne s'est interrogé sur le bilan carbone du Dakar ou sur des choses comme ça, tu vois. Donc on est aussi quelque part dans le mensonge, quoi. En fait, on veut se gargariser de bonnes choses, mais on ne prend pas des attitudes vraies. Donc comment nous allons agir pour que cela change? Continue, Bernard. Oui, si tu veux.
Oui. Alors moi j'ai trouvé quatre organisations qui se sont mises ensemble pour proposer. Hein, il y avait Oxfam, qui est une ONG britannique, mais de très grande ampleur. Hein, que c'est une des plus importantes du monde. Il y a le Secours catholique, il y a Action Aide Peuple Solidaire, et il y a le CCFD. Et donc, ils disent, c'est le moment d'alerter les hommes politiques pour que ces 15 propositions puissent advenir dans la campagne présidentielle. Donc, alors je peux les citer, ces 15 propositions. Donc, au niveau du partage, il y a la lutte contre la fraude fiscale. Ça veut dire s'engager pour une harmonisation fiscale en Europe. Chaque pays d'Europe a sa fiscalité différente et là, on se fait avoir. Il y a rendre les impôts plus progressifs, plus justes. Atteindre l'objectif, on en parle depuis au moins 10 ans, 0,7% du revenu national brut qui irait à l'aide publique au développement. C'est réguler la finance. Alors là, vaste problème, comme dirait l'autre. Et puis, l'Agence française du développement, qui aurait comme objectif premier, réduire les inégalités. Parce que, moi j'ai lu ça, il y a 65 personnes qui ont la richesse de la moitié la plus pauvre du monde. C'est-à-dire 65 personnes qui ont la richesse de 3 milliards 500 000 enfin, c'est
totalement
fou.
Inadmissible.
C'est complètement dingue ce
mais
ce
ça
genre.
On le dit alors avec d'autres chiffres si tu veux. 20% de la population du monde, nous,
oui,
on a 80% des richesses. Voilà, c'est une autre manière de le dire.
On
voilà.
marche sur la tête quand même,
oui.
Faut pas déconner. Donc,
alors... Comme il dit.
Donc, ensuite, la justice, promouvoir la justice climatique, ça veut dire sortir des énergies fossiles, supprimer tout soutien à la production d'agrocarburants industriels, atteindre 1 milliard d'euros de dons pour les pays en développement, c'était dans la COP21, on l'a voté ça, hein, la France comme les autres. S'assurer qu'on alimente plus la dynamique, qu'on alimente plus la dynamique d'accaparement des terres. J'étais en Afrique, c'est dingue. Les pays du Golfe,
l'Amazone, et puis voilà, oui, on pourrait citer tant qu'on voudrait.
Chine. Absolument. Donc, l'agroécologie paysanne peut permettre la souveraineté alimentaire. Je termine par les droits de l'homme, solidarité à l'égard des migrants, on en a parlé. Suspendre l'accord entre l'Union européenne et la Turquie dont on a vu qu'elle ne respectait pas les droits de l'homme, et puis légiférer pour obliger les multinationales à respecter les droits, réguler les abus de concurrence déloyale et garantir le respect des droits des femmes. Parce que là aussi, c'est les éternels oubliés.
C'est un vaste programme. Et alors, vous pourriez dire, mais aucun des candidats ne pourront mettre en œuvre ces programmes-là. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin disait, oh, mais quand on fait des choix, c'est rarement le meilleur choix, c'est le moins mauvais. Et c'est dans ce sens-là que chacun de nous allons être appelés à voter. Donc, vivre l'espérance, vous voyez, c'est pas fichu, c'est s'engager pour un combat, pour permettre à la lumière, mais une lumière qui nous vient d'ailleurs, et une lumière qui soit pas des lamps light ou des lumières artificielles, mais une lumière d'intérieur qui nous permette d'avancer vers le meilleur et le plus beau. Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Ojitos de almendra, piel de aceituna. ay burrito del campo,
ay muy parcito,
mi niño está viniendo
a darle sitio.
Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un Dios escondido nadie sabía.